Merci d'écouter Inter.
This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
France Inter.
Le 18-20 en Suisse ce soir, reportage sur la démocratie directe à la une, d'ailleurs dans le monde avec Olivier Poujade. Cinéma, Eva Bétan nous parlera du film « Je danserai si je veux » en salle demain à 18h55, l'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde sur la face noire du plein emploi américain. Tout de suite, Brexit et autres réjouissances européennes.
Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Avec plusieurs dossiers au menu de cette première partie ce soir, le Brexit donc, dont la procédure est officiellement lancée, la politique fiscale en Europe, les nationalismes en Europe et un regard sur l'Europe, toujours dans la présidentielle française. Bonsoir Pierre Moscovici.
Bonsoir.
Commissaire européen aux affaires économiques, financières, à la fiscalité et à l'union douanière, c'est bien ça ?
Ça fait lourd.
Oui, ça fait lourd, on a déjà perdu une minute, hein, le temps de le dire. Alors on a connu la campagne du Brexit, Pierre Moscovici, le vote, la discussion sur la date, les modalités du déclenchement de l'article 50. Voilà, nous y sommes. Quelles sont les étapes à venir, là?
Alors, il y aura le 29 avril un Conseil européen, c'est-à-dire une réunion des chefs d'État et de gouvernement convoquée par Donald Tusk. Et il y aura à ce moment-là une feuille de route qui sera donnée. Il y aura aussi de la part de la Commission une sorte de vademécum. Et puis, la négociation commencera avec, au poste de pilotage, le négociateur européen principal, qui est l'ancien commissaire Michel Barnier, français. Et c'est parti. C'est parti jusqu'au 29 mars 2019,
deux ans
à partir de la date où a été invoqué l'article 50. Et ça va être une négociation complexe, bien sûr, mais que nous devons aborder avec à l'état d'esprit, avec des principes.
Alors ça, on va y venir justement. Quelles sont les bases à l'instant T de cette négociation côté Grande-Bretagne, côté Europe? On commence avec la Grande-Bretagne.
Difficile à dire. La Grande-Bretagne, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites aux électeurs britanniques sur le Brexit. Ils allaient payer moins, recouvrer leur souveraineté et garder tous les avantages de l'appartenance à l'Union européenne.
Sans les inconvénients.
Et on ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Ça, parmi les principes que j'évoquais pour l'Union européenne, j'en vois trois. Le premier, c'est que puisque la Grande-Bretagne va négocier en fonction de ses intérêts, nous allons négocier en fonction des nôtres. La Commission européenne va représenter les intérêts des 27 États membres. Deuxième principe, les quatre libertés du marché intérieur, c'est-à-dire la liberté de circulation des personnes, des biens, des marchandises et des capitaux, doivent être respectées ensemble. Autrement dit, il faut penser à nos citoyens, aux Britanniques certes qui vivent dans l'Union européenne, mais aux citoyens de l'Union européenne qui vivent en Grande-Bretagne. Et ça, on ne peut pas transiger là-dessus, elles sont indissociables. Et puis la troisième chose, les Britanniques ont inventé les clubs. Je suis pas un grand fan de clubs, mais enfin, je parle de clubs, vous savez, de messieurs,
où on se réunit le soir,
pas les clubs de foot. Et quand on est membre d'un club, c'est mieux que de ne pas être membre. Autrement dit, la situation de la Grande-Bretagne à l'issue ne peut pas être aussi bonne qu'elle l'a été à l'entrée. Alors, en même temps, il faut un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de parvenir à un accord, parce que je pense qu'on y a un intérêt mutuel. Je pense que l'hypothèse où nous n'avons pas d'accord est mauvaise. Elle est mauvaise pour l'économie britannique, elle est mauvaise pour l'économie européenne, elle est mauvaise pour les citoyens britanniques et pour les citoyens de l'Union européenne. On doit penser à nos citoyens d'abord. Donc, il faut avoir cet esprit, considérant que la Grande-Bretagne est un pays européen, mais ne sera plus un pays de l'Union européenne. En même temps, pour ça, il faudra aussi passer par des moments difficiles sans doute, parce que je parlais des fausses promesses. On a expliqué aux Britanniques qu'ils allaient retoucher de l'argent avec le Brexit. Il y a aussi une ardoise financière.
Qui est monstrueuse, hein.
De l'ordre de 60 milliards d'euros. On leur a dit qu'ils auraient de manière tout à fait naturelle un accord de libre-échange. Il faudra le négocier, d'ailleurs le négocier après la sortie. Donc il y aura sans doute un round d'observation qui durera quelques mois, pendant lequel on va parler des grands principes de négociation. Puis ensuite, on va se plonger dans les dossiers, et ils sont énormes, ils sont imbriqués, et il faut le faire, encore une fois, avec cet état d'esprit de penser à nos citoyens d'abord, les citoyens britanniques, les citoyens de l'Union européenne, avec, je le dis, la volonté de la part de la Commission de parvenir à un accord, mais un accord qui respecte nos principes. Et cet accord, encore une fois, il ne s'agit pas de punir la Grande-Bretagne pour le choix qui a été fait.
Mais en tout cas, de marquer le coup.
C'est pas
le coup avec un T, hein.
Si on pouvait avoir tous les avantages de l'Union européenne, sans avoir les disciplines communes, si on pouvait prendre une liberté pour la laisser de côté et garder toutes les autres, ce serait formidable. Et à ce moment-là, plus besoin d'Union européenne. Il suffirait d'avoir une espèce de vague marché commun, un marché intérieur. Oh, nous sommes beaucoup plus que ça. Et puis ensuite, il faudra penser à ce qu'est notre relation future, parce que moi, je crois que nous avons beaucoup à faire avec l'Union européenne. Ça passe par un accord, en effet, commercial, mais un accord commercial moderne, qui respecte les règles en matière sanitaire, environnementale. Plutôt un accord qui ressemble, pour moi, au CETA.
Ah
mais oui, que je considère comme un bon
ciel.
Accord, plutôt qu'au TAFTA, au TTIP, qui était plutôt mal parti. Et donc, voilà ce qu'il faudra faire. Et j'ajoute qu'en matière de défense, de sécurité, on devra forcément coopérer avec le Royaume-Uni, qui est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, comme la France l'est, et on a une coopération en matière de défense qui doit se poursuivre. Dernier point, la fiscalité.
Alors voilà, une vraie question. Est-ce que le Royaume-Uni n'aurait pas intérêt, Pierre Moscovici, à être une terre extrêmement légère quant à la fiscalité pour attirer, dès lors qu'ils sont sortis de l'Union européenne, pour attirer les entreprises, pour attirer les capitaux et faire du dumping fiscal?
Alors, certains disent, la Grande-Bretagne une paradis fiscal. Je ne crois pas que nous irons vers ça. Pourquoi ? Parce que c'est un pays membre du G20, un pays membre du G7, c'est un grand pays qui a l'intention de continuer à participer aux avancées du G20 et de l'OCDE sur les standards globaux, c'est-à-dire l'échange automatique d'informations sur les comptes courants, sur les rescrits fiscaux, et qui veut coopérer en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Donc, je ne pense pas du tout qu'on va avoir une dérégulation à côté de nous. En revanche, ce qui est possible, c'est qu'on ait une compétitivité fiscale, c'est-à-dire des taux d'impôt sur les sociétés très fortement abaissés. Je ferai remarquer que si la Grande-Bretagne voulait le faire maintenant, dans le cas de l'Union européenne, elle le pourrait. Puisque, étant commissaire à la fiscalité, je sais que nous on a une action sur les règles communes, mais qu'il y a la souveraineté sur les taux. Par exemple, l'Irlande a des taux à 12,5%. On peut être pour, on peut être contre. On n'y peut rien. Et si la Grande-Bretagne décidait aujourd'hui d'aller vers... Elle avait déjà décidé d'aller vers 20, d'aller vers 15, ce serait son problème. Mais j'ai aussi un petit doute, parce que pour baisser les taux d'impôt sur les sociétés autant, il faut pouvoir compenser des pertes de recettes qui seraient tout de même extrêmement massives. Mais
ça fait un beau modèle économique quand même, en tout cynisme mis à part. Quand on est un pays qui quitte l'Union européenne, on peut se dire, il est là le modèle économique alternatif, dans la compétition. Puisqu'on n'a plus les règles communes, autant y aller et en profiter.
C'est une possibilité, mais je pense que la Grande-Bretagne est terriblement en réalité dépendante de l'économie européenne. Dans toutes les prévisions que nous faisons, on constate que c'est l'économie britannique qui sera le plus heurtée, que ça aura des conséquences sur les échanges, que ça aura des conséquences sur le rapport au marché unique, au marché intérieur. Je pense que c'est pas une bonne affaire pour le Royaume-Uni en vérité. On ne le voit pas encore. Alors, certains disent...
Oui, le Brexit n'a aucune conséquence. En fait, il n'a pas eu lieu.
Mais ce n'est pas illogique, parce qu'en effet, il n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, on parle d'une réalité virtuelle. On pourrait se dire, le 23 juin, on a voté pour le Brexit, donc le 24, on n'est plus dans l'Union européenne. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On est maintenant début avril, et on n'a pas encore commencé la négociation. Donc, après, d'un an après, on ne commence pas la négociation. Mais je pense qu'à un moment viendra, et la Banque d'Angleterre le prédit déjà, où il y aura un impact sur la croissance britannique, incontestable, et il ne sera négatif.
Quel est l'intérêt, si on prend l'autre position, quel est l'intérêt de l'Union européenne à trouver un compromis? On voit bien l'intérêt britannique, mais l'intérêt européen?
Il y a ce que je disais, c'est-à-dire que c'est une nation européenne, c'est pas un pays qui nous est extérieur.
C'est la géographie, la symbolique et l'histoire.
Mais vous parlez géopolitique, c'est tout à fait important tout de même. On a besoin d'avoir encore une fois des coopérations en matière
militaire,
mais on a aussi besoin, je pense, de garder des relations économiques. J'évoquais les 4 millions de citoyens de l'Union européenne qui travaillent au Royaume-Uni. Quand vous allez à Londres, Londres doit être une des 10 premières villes françaises, 200 000 Français. Peuvent-ils garder là-bas une liberté d'établissement? Est-ce qu'on doit suspendre nos coopérations éducatives? Quelles conséquences sur les échanges? Et c'est quand même une grande économie. C'est la deuxième économie d'Europe aujourd'hui, la deuxième économie de l'Union européenne. Et nous avons à perdre, à cesser nos échanges. Donc nous avons besoin d'avoir une relation coopérative avec un pays qui est à nos frontières. On ne va quand même pas avoir demain, après le Brexit, une relation plus mauvaise que celle que nous avions avant l'adhésion. Gardons le bon sens. Et encore une fois, l'Europe, elle est faite pour réconcilier ses peuples, pour rapprocher ses économies. Il faut trouver une situation qui soit mutuellement bénéficiaire, mais en même temps, qui ne soit pas comparable du point de vue des droits à l'appartenance à l'Union européenne.
L'enquête journalistique sur les Panama Papers, enquête mondiale,
hein, on fête son anniversaire.
Oui, on fête son anniversaire et le prix Pulitzer, c'était mérité.
Totalement. Parce que pour le décideur public que je suis, c'est-à-dire pour celui qui promeut la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale en Europe, ces scandales, c'est toujours quelque chose qui évidemment choque l'opinion, qui parfois nourrit le populisme, mais c'est aussi une puissante incitation à agir. Quel est le problème en Europe ? C'est que les États membres ont un peu tendance à rester dans le statu quo. Mais quand arrive un scandale, ils sont, pardonnez l'expression, vous parlez vulgaire, un peu poussé au cul. Mmh. Et donc, ils changent un peu, ils sortent de leur réflexe routinier. Et chaque fois qu'arrive un scandale, les LuxLeaks ou les Panama Papers, qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons fait l'échange automatique d'informations sur les comptes courants. Qu'est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de secret bancaire en Europe ? Ça n'existe plus. J'ai eu un ministre délégué qui avait un compte en Suisse, on n'a pas réussi à le trouver, là, ce serait automatique. On a l'échange automatique d'informations sur les rescrits fiscaux, c'est-à-dire sur les prévisions fiscales. On a le reporting pays par pays de l'attitude des multinationales en matière comptable et fiscale. Je souhaite d'ailleurs qu'on aille plus loin, qu'il soit public. On a voté des textes en matière de lutte contre l'évasion fiscale et il faut continuer. Et dans mes fontes, dans mes projets, dans les projets de la Commission européenne qui sont sur la table du Conseil maintenant, il y a une action sur les intermédiaires, les conseillers fiscaux, les conseillers juridiques qui parfois aident à des mécanismes de planification fiscale agressive, d'évasion fiscale. Et il y a une liste noire de paradis fiscaux et je souhaite qu'elle soit prête avant la fin 2017, la première liste européenne avec des sanctions. Il y a une lutte contre la fraude à la TVA, il y a l'assiette commune consolidée de l'impôt sur la société. Il faut prendre conscience que ces scandales nous ont permis de faire plus en 2 ans dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale que dans les 15 années précédentes. Donc, oui, prix Pulitzer mérité.
Ce que disent les ONG, les associations, on recevait les représentants d'Oxfam, Pierre Moscovici, c'est qu'il y a deux choses, en fait. Il y a ceux qui franchissent la ligne rouge et il y a ceux qui mordent dessus et qui restent donc formellement dans les cadres de la légalité. C'est la différence entre
La
fraude fiscale
et l'évasion.
L'optimisation agressive. Or, l'optimisation agressive, et on boucle la boucle, elle est nourrie précisément par la différence des taux d'imposition entre les différents pays de l'Union. Est-ce que là-dessus, vous l'avez dit, c'est de l'ordre de la souveraineté des États. Est-ce que là-dessus, il va y avoir, à l'échelle européenne, une action coordonnée ?
Je crains que non, pour être tout à fait franc. Vous savez que la matière fiscale, comme la matière sociale d'ailleurs, fait partie des mécanismes qui doivent être décidés à l'unanimité. Autrement dit, on ne peut pas prendre de directive en matière fiscale ou sociale si on n'a pas l'unanimité des 28 aujourd'hui, des 27 demain. Et c'est un blocage extrêmement fort. Ce qui fait que sur les taux, on peut souhaiter un taux d'imposition minimal, on peut souhaiter des taux communs. La réalité du Conseil des ministres, c'est que ça n'existe pas. Moi, je plaide pour ce qu'on appelle l'imposition effective, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus aujourd'hui, comme il y a eu jadis, d'entreprises qui ne payent pas ou qui payent trop peu d'impôts. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la décision de ma collègue Margaret Vestager sur le cas Apple. On payait 0,05% d'impôts sur les sociétés en Irlande. Ça n'a aucun sens.
Amende.
Oui, parce que c'est considéré comme une aide d'État. On va trop loin. Mais on n'aura pas de taux commun. Alors, que faire ? Je pense qu'on peut avoir une harmonisation partielle. Je pense que là, c'est l'Europe à géométrie variable qui trouve son sens. C'est-à-dire que si certains États veulent aller plus loin ensemble, ils peuvent le faire. Et je pense notamment qu'après l'élection présidentielle française et après l'élection allemande, il sera temps pour une coopération très forte entre la France et l'Allemagne, dès lors qu'elles rapprochent leurs économies, dès lors qu'elles rapprochent aussi leur politique budgétaire. Moi, je crois vraiment qu'il faut continuer la réduction des déficits budgétaires. Les 3%, c'est pas un carcan, c'est un objectif qui doit être partagé et partagé avec la France. Et donc, si on avait demain des taux d'imposition sur les sociétés plus faibles et harmonisés entre la France et l'Allemagne, bonne nouvelle.
Pierre Moscovici, je ne veux absolument pas savoir pour qui vous allez voter dans l'élection présidentielle française. Donc ça, c'est la ligne rouge de cet entretien. Et en plus, vous n'allez pas me le dire, donc ça tombe bien. Comment Bruxelles, comment la Commission regarde la campagne française sur l'Europe, sur le sujet de l'Europe ?
Avec intérêt, parce que c'est une compétition vive.
Non,
c'est pas une mauvaise campagne, mais elle est en même temps cocasse, baroque, elle est confuse, elle est imprévisible. Et il arrive, en effet, sur l'Europe, qu'elle soit inquiétante. Elle est confuse d'abord parce qu'on n'a pas le sentiment que l'Europe ait la place qu'elle mérite, alors que pourtant, c'est le sujet. Est-ce que nous sommes une économie ouverte? Est-ce que nous sommes une société ouverte? Est-ce que nous continuons à coopérer avec les autres? Quelle place pour la France en Europe? Étant entendu que pour moi, la France sans l'Europe, c'est faible, et l'Europe sans la France, ça n'existe pas. Et puis, elle est inquiétante, parce que c'est vrai que beaucoup regardent la montée de Marine Le Pen, je dois quand même prononcer son nom, le bloc nationaliste qu'elle propose, la sortie de l'Europe, le Frexit, ou la sortie de l'euro, qui est son programme, qui pour moi est un programme délirant, un programme évidemment mortel pour l'Europe, parce que, comme je le disais, faire l'Europe sans la France, c'est une raison d'être qui s'en va, et qui est dangereux pour la France et pour ses couches populaires, parce que sortir de l'euro, par exemple, c'est plus d'inflation, plus de taux d'intérêt, c'est moins de pouvoir d'achat. Donc ça, on regarde ça avec inquiétude. Une inquiétude que, pour ma part, je m'efforce de tempérer, parce que je trouve que Mme Le Pen à 25%, c'est énorme au premier tour, à 40% au deuxième, c'est invraisemblable. Ça montre un degré de pessimisme dans le pays, de repli sur soi, de
déprime. Et elle n'a pas en plus le monopole de la critique de l'Europe. Hein. Vous dites le bloc nationalisme et le bloc eurosceptique, il est
très
considérable.
Important. Mais permettez-moi, je la distingue des autres. Parce qu'elle est la seule à avoir une volonté destructrice dans la relation entre la France et l'Union européenne. Alors j'essaie de rassurer, mais en même temps, même si elle ne fait que 23 ou 24, que 37 ou 38, c'est déjà beaucoup trop. Et ça veut dire que nous avons besoin de repartir à l'offensive, les pro-européens. Ce que je regrette, c'est que ceux qui aiment l'Europe, ceux qui veulent l'Europe, ceux qui ont des propositions pour l'Europe, soient toujours trop timides, pas assez en avant. Et j'aimerais qu'on aille plus loin. Une France qui fait des propositions, une France offensive en Europe, une France qui est forte en Europe, ça, c'est le modèle dont nous avons besoin.
Mais ce sera une France forte dans une Europe des petits cercles et des projets. C'est-à-dire qu'on fait le deuil, de toute façon, de la grande Europe et du fédéralisme.
Fédéralisme,
oui.
C'est-à-dire...
le deuil est déjà fait, les obstacles sont passés.
Disons qu'il n'y a pas aujourd'hui de désir de porter davantage de pouvoirs supranationaux à Bruxelles. Mais moi, je ne fais pas le deuil de l'ambition européenne. La Commission européenne a fait ce qu'on appelle un livre blanc avec 5 scénarios. Parmi ces 5 scénarios, il y en a 2 que je vous distinguais. Il y a celui du sursaut, c'est-à-dire on va plus loin sur la défense, sur la sécurité, sur l'euro. Parce que pour moi, c'est d'une importance majeure. Par exemple, d'avoir un budget d'investissement pour la zone euro, parce qu'on est en retard sur l'investissement. Et il y en a un autre qui est celui de la géométrie variable, c'est-à-dire que dans certains cas, on avance ensemble. Moi, ça ne me fait pas peur. Ce n'est pas l'Europe à 2 vitesses, c'est l'Europe de la coalition des volontés. Et ça existe déjà. L'euro, on est 19. Schengen, tout le monde n'y est pas. La défense, on ne la fera pas avec tous. La taxe sur la transaction financière, on la dessine à quelques-uns. Et donc non, je ne dirais pas que...
Ce n'est pas une Europe de faible puissance qui se dessine.
Non, je pense que c'est une Europe peut-être plus réaliste. C'est une Europe qui reste très vaste, mais qui du coup tient compte de ses différences. Mais il revient à la France, à l'Allemagne, avec la Commission, de proposer un modèle européen ambitieux. Et j'ai envie que mon pays, la France, parce que je reste français, je voterai dans cette élection, sorte de là avec une conviction européenne plus forte.
Il me reste 40 secondes pour redonner votre titre, Pierre Moscovici, et vous remercier.
Ce sera trop long.
Commissaire européen aux affaires économiques, financières, à la fiscalité et à l'union douanière.
Important, l'union douanière. N'oublions
très
pas les douanes,
très
qui
important.
Contribuent beaucoup à la lutte contre le financement du terrorisme, la criminalité. Et je veux saluer les douaniers parce que c'est une profession qui est parfois méconnue et qui est un auxiliaire de sécurité fondamental.
Pierre Moscovici, merci. Dans quelques instants, le journal de l'International. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your heart. Clapton sur Inter, 18h39.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
On part ce soir en Suisse pour s'intéresser à un autre système politique.
Système qui se veut plus participatif, Nicolas, plus représentatif, plus proche des attentes de la population. Tous les 3 mois, les citoyens suisses sont appelés aux urnes pour se prononcer sur des questions locales ou nationales. C'est ce que l'on appelle la démocratie directe. Cette mécanique est-elle plus juste, plus équitable, plus modérée? Nous allons décortiquer tout cela avec vous, Delphine et Venu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes de retour donc de reportage à Berne. Alors déjà, en quelques mots, comment fonctionne concrètement ce système suisse?
Eh bien, on est dans un système fédéral, c'est-à-dire qu'on délègue au maximum les compétences au plus bas échelon possible, à la commune ou aux 26 cantons. Système aussi de démocratie directe. Les citoyens ont leur mot à dire sur les lois. Ils sont obligatoirement sollicités quand il s'agit de toucher à la Constitution. Et ils peuvent, eux, réclamer qu'une loi fédérale soit modifiée. Pour ça, il faut récolter 50 000 signatures. Ce sont des référendums. Et puis, il y a l'initiative populaire, la fameuse. Cela signifie qu'un groupe de citoyens peut exiger du Parlement qu'il examine une proposition de loi émanant du peuple, des citoyens qui partent en campagne pour recueillir au moins 100 000 signatures.
Ce qui veut dire que chaque décision revient donc au plus grand nombre. Ce sont les citoyens qui tranchent?
Alors, on va dire qu'ils co-décident. Mais ce qui est sûr, c'est que les élus ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si leur copie ne remporte pas une franche adhésion, c'est retour à l'envoyeur. Résultat, un large consensus sur les textes, pas de fronde contre les représentants politiques et très peu de manifestations. Et cela fait 120 ans que ça dure. Mais depuis une quinzaine d'années, la donne évolue. Car à la base, comme son nom le laisse entendre, l'initiative populaire est un outil pour le peuple qui doit être capable de proposer une loi s'il estime qu'il n'est pas assez bien représenté. Mais les partis politiques s'en sont emparés pour gagner des électeurs.
Et comment s'accapare-t-on un tel outil, Delphine, en injectant, bien sûr, une bonne dose de populisme dans son discours politique?
C'est ce qui a l'air de marcher, du populisme de droite en l'occurrence, puisque l'extrême gauche n'existe pas ou à peine en Suisse. Parlons donc de l'UDC, l'Union démocratique du centre, premier parti du pays, environ 30% des suffrages. Une cote de popularité qui grimpe en même temps que grimpe le nombre d'initiatives populaires. Et cela agace l'essayiste suisse François Cherix.
Quand l'UDC démarre, qu'elle est reprise au fond par Christophe Blocher, le leader populiste suisse, c'est un tout petit parti en déshérence, de tendance un peu agricole. Et au fond, ce parti, ses dirigeants ont utilisé l'instrument de démocratie directe comme un instrument de marketing systématique avec une grande habileté, et ils se sont construits une notoriété et des résultats grâce à l'instrument de démocratie directe. Clairement, si cet instrument ne pouvait pas s'exercer aussi facilement, leur succès n'aurait pas été aussi considérable.
Exemple, la votation pour interdire la construction des minarets en 2009, approuvée. La votation contre l'immigration de masse en 2014, approuvée. La préférence indigène à l'embauche dans le canton italophone du Tessin l'an dernier, là aussi approuvée. Il y a une sorte de surenchère.
Oui, et comment on explique justement cette surenchère?
Eh bien, l'UDC y trouve le moyen d'exister grâce à une sorte de slalom électoral, en étant à la fois au pouvoir et dans l'opposition. Une subtilité que nous explique Pascal Sciarini, professeur de sciences politiques à l'Université de Genève.
L'UDC se sert de la démocratie directe parce qu'au Parlement, elle n'est pas majoritaire. Et dans le système suisse, il faut avoir une coalition de partis pour obtenir une majorité. Et comme elle n'y arrive pas, elle est souvent tentée, effectivement, de passer devant le peuple directement. Donc d'outrepasser, en quelque sorte, le Parlement, de lancer des initiatives pour essayer d'obtenir un soutien directement de la part du peuple. On peut ajouter en plus que l'UDC se sert des initiatives pas seulement pour changer des politiques, mais elle s'en sert aussi à des fins électorales ou électoralistes, c'est-à-dire qu'elle lance des initiatives une année avant les élections nationales de façon à occuper le terrain, à dicter l'agenda politique, à mobiliser ses militants et à montrer aux électeurs qu'elle se préoccupe de ces thèmes de prédilection.
Mais pour Pascal Charini, le fait que les Suisses soient aussi souvent appelés à voter, cela crée aussi une sagesse populaire, une compétence politique supérieure aux autres pays et qui amène à être raisonnable. Et c'est vrai qu'en février dernier, les Suisses ont approuvé par référendum et à une large majorité la simplification de la procédure de naturalisation des petits-enfants d'immigrés, alors que l'extrême droite avait pourtant multiplié les propos anti-musulmans.
Alors si on résume bien, Delphine, l'UDC, premier parti de Suisse, mène une sorte de campagne électorale permanente pour séduire et convaincre, ce qui laisse très peu de place au final aux autres pour exister. Quoi.
Oui, surtout ceux qui se situent au centre de l'échiquier politique en Suisse. Pour faire simple, vous avez l'UDC à droite, le Parti Socialiste à gauche, et au milieu, les chrétiens-démocrates et les libéraux radicaux qui jouent en quelque sorte le rôle d'arbitre. Et ce n'est plus si facile de le faire, explique Fatih Derder, conseiller national, c'est l'équivalent de député, pour le Parti Libéral Radical.
On essaye d'appeler un peu tout le monde au calme. C'est compliqué parce qu'on a un durcissement du dialogue politique suisse entre deux pôles qui deviennent de plus en plus durs. On a beaucoup de peine à maintenir ce dialogue qui est le fondement même de la démocratie directe et de notre stabilité politique, qui est un des garants principaux de notre croissance économique. Ce qui fait l'attractivité et la force de la Suisse, c'est vraiment cette stabilité. Et malheureusement, la stabilité dépend de la démocratie directe. Mais le durcissement du discours politique, qui vraiment porte des coups assez durs à la démocratie directe et donc à la stabilité, porte atteinte également à la croissance et à tout le climat qui fait que la Suisse aujourd'hui est un pays dans lequel il fait bon vivre. Et malheureusement, je crains qu'on y porte atteinte de manière assez dure aujourd'hui.
Et exemple, la votation contre l'immigration de masse de février 2014, qui fixe des quotas, un peu l'équivalent du Brexit pour les Suisses en termes de séisme politique. Elle a imposé cette votation selon un aux fonctionnaires du département suisse des affaires étrangères, une sorte de purgatoire de la part de l'Union européenne. Plusieurs négociations sur des accords bilatéraux comme Erasmus ont été gelées. De quoi faire réfléchir. Mais est-ce l'exemple de cette sagesse populaire dont on a parlé? 10 mois plus tard, une nouvelle initiative anti-immigration a cette fois été rejetée très massivement.
Delphine Evenou qui est allée donc sonder pour nous le mécanisme de démocratie directe de nos voisins suisses. Merci à vous, Delphine.
Et l'histoire maintenant, Olivier, d'un patrimoine qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur aux États-Unis.
Et qui a finalement trouvé refuge en Allemagne, Nicolas. L'histoire d'un tas de vieilles planches de bois et d'un numéro de rue, le 2672, l'adresse de la couturière noire américaine Rosa Parks, qui avait refusé de céder sa place à un blanc dans un bus en 1955. Rosa Parks, devenue ensuite le symbole de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Sa maison, en banlieue nord de Détroit, avait été condamnée à la démolition. Elle vient d'être rebâtie pièce par pièce à Berlin par un artiste new-yorkais. Ryan Mendoza explique à la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle ce qui l'a poussé à se lancer dans un tel projet.
Le fait qu'en Amérique, cette maison n'avait aucune importance, le fait que les institutions puissent permettre qu'elle soit inscrite sur la liste des démolitions, le fait qu'ils puissent la vendre pour $500, le fait que le gouvernement américain puisse penser que cette maison ne valait pas plus de $500, tout cela est bien la preuve d'une énorme négligence.
C'est donc Rhea McCauley, la nièce de Rosa Parks, qui a finalement pu racheter la maison pour $500. Donc, mais aucune fondation, aucune personnalité, y compris l'ancienne première dame Michelle Obama, n'ont accepté de l'aider pour financer la restauration du lieu, comme si la mémoire n'avait aucune importance aux États-Unis. C'est pour cette raison précisément que l'artiste Ryan Mendoza a choisi de la transférer à Berlin.
C'est quelque chose que les Allemands ont fait. Ils ont affronté leur passé. Et c'est quelque chose que les Américains n'aiment pas faire. Nous n'aimons pas reconnaître nos erreurs. Nos leaders préfèrent que l'on se prosterne devant le drapeau. Comme si le patriotisme était la seule chose importante.
Une partie de la mémoire de Rosa Parks est donc aujourd'hui saine et sauve en Allemagne. Nicolas, sa maison reconstruite à l'identique sera d'ailleurs visible à l'occasion du festival d'art berlinois Gallery Weekend à la fin de ce mois.
What's in front, what's behind?
You're serious.
If the bus filled up, we had to give up our seats or we'd be fine.
That's ludicrous.
I made a stand in my hometown, Montgomery, Alabama.
That's dangerous.
Refused to stand for a white man, so they put me in the slammer.
Discourteous.
December 5, 1955, my trial notorious. Black people stood side by side and no one got on the bus. They stayed off the bus.
We stayed off the bus.
RASPECT enforced new legislation. Dream of the day the USA had no implementation of SEGREGATILA.
Spell segregation.
From that day on, we walked our cab led by Martin Luther King. Attacked by mobs, our houses bombed, though peace was our thing. Our plot, it made the national news, which was mighty strange.
Voilà le morceau Rosa Parks Equality Song tiré d'un programme de la chaîne britannique BBC One.
Olivier Poujade, merci.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé.
Un jour dans le monde.
Et ceux qui creusent.
Nicolas Demorand.
Toi, tu creuses.
Sur France Inter.
Cinéma, Eva Béton, bonsoir. Vous nous parlez aujourd'hui du film Je danserai si je veux. Il est signé Maïsaloun Hamoud.
Oui, bonjour. C'est donc un film palestinien d'une jeune réalisatrice palestinienne. Et il est intéressant parce que dans des régions, je dirais, très politiques, Israël-Palestine, c'est très politique, on s'attend à ce que les films ne parlent en quelque sorte que de cela. Or, elle va nous parler d'autre chose. Elle va nous dire qu'est-ce que c'est qu'être, parce que c'est cela dont il s'agit, d'être une jeune arabe-israélienne, c'est-à-dire une jeune palestinienne vivante en Israël. Et elle le fait à partir du portrait de trois femmes. Deux femmes libérées en quelque sorte et une jeune femme voilée. Elles sont comme schizophrènes. Il y a la vie qu'elles vivent à Tel Aviv et puis il y a ce qu'on attend d'elles quand elles retournent chez leurs parents. La qualité première de ce film, si vous voulez, c'est que déjà qu'il nous donne, outre qu'il est très bien, c'est qu'il nous donne à voir une jeunesse qu'on n'a jamais vue. Écoutez la réalisatrice Maïsaloun Hamoud.
Cette jeune génération est une génération invisible. Elle a grandi là. Mais personne n'en parle. Elle n'est représentée nulle part. Je fais partie de cette génération qui a pris ses distances avec les règles de vie de sa société d'origine, qui est une société conservatrice. Je parle bien sûr en tant que palestinienne. Ces jeunes, en venant à Tel Aviv, essaient de vivre en harmonie avec ce qu'elles sont vraiment. Mais elles réalisent qu'elles ne feront jamais partie de ce monde-là. Parce qu'elles sont des Palestiniennes dans une ville israélienne juive.
Mais dans votre film, c'est montré, mais vraiment brièvement. L'essentiel de votre film est plutôt dans les relations avec votre milieu d'origine, avec les familles de ces jeunes femmes.
Because this is the theme.
Oui, parce que c'est le sujet de mon film. Au travers des familles que je montre, on voit la véritable vie des Palestiniens en Israël, au lieu des stéréotypes sur les Palestiniens. On voit aussi les traditions auxquelles ces jeunes femmes veulent échapper. Les dommages que génère le patriarcat dans notre société se voient aux contraintes qu'il impose aux filles. Mais cela existe aussi ailleurs, de par le monde.
Vous vous attaquez aussi violemment à ce que peut être l'intégrisme religieux musulman.
Je ne critique pas l'islam. Je critique la manière dont des personnes religieuses se servent de l'islam. Je dis juste qu'il y a un fondamentalisme religieux qui ne cesse de monter partout, qui prend différents visages, mais les racines sont les mêmes.
Est-ce que ça vous a valu des ennuis?
Quand le film est sorti, ça a été une belle pagaille. Des fondamentalistes ont réagi violemment, allant jusqu'aux menaces. Avant même de voir le film, ils l'ont interdit. Mais cela a eu l'effet inverse. De plus en plus de gens ont voulu voir le film. Et le film est un grand succès en Palestine, en Israël. Il s'est produit avec ce film ce qui ne s'est jamais produit avec aucun film. Dans les cinémas, c'était la première fois qu'on avait un public mixte, palestinien et israélien, au même moment, pour le même film, tous appréciant le film et chacun le voyant différemment. C'était vraiment fascinant. Ce n'était jamais arrivé.
Et ce film, c'est donc Je danserai si je veux de Maïsaloun Hamoud au micro d'Eva Bétan.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
L'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez ce soir aux États-Unis où le plein emploi cache d'étonnantes réalités sociales, Vincent.
Oui Nicolas, on vient d'avoir le dernier chiffre mirobolant du chômage aux États-Unis, 4,5%. Avouez que ça fait rêver. Tous les analystes s'accordent à dire que l'économie américaine se trouve désormais au plein emploi. La job machine tourne à plein régime. Elle a créé plus de 11 millions d'emplois depuis le début de la crise de 2008. On louera cette fois encore l'incroyable capacité de rebond des États-Unis, la puissance de l'innovation dans ce pays qui a acquis une domination sans partage dans les industries du futur et le numérique, le pragmatisme aussi qui prévaut dans le pilotage de la politique économique. Mais, une fois qu'on a rendu cet hommage mérité, il faut aller regarder à la loupe les réalités fines du marché du travail américain. Et là, beaucoup de signes intriguent. D'abord, ce qu'on appelle le taux d'emploi, Nicolas, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui ont un emploi ou qui sont à la recherche d'un emploi par rapport à la population globale en âge de travailler. Ce taux n'avait cessé de grimper depuis les années 70. Eh bien, figurez-vous que depuis 15 ans, il s'effrite. Et les États-Unis sont le seul pays à connaître une telle chute qui s'est poursuivie sous les 4 derniers présidents des États-Unis, ce qui prouve qu'elle n'est pas liée au cycle économique, mais à des raisons structurelles. Alors, première piste pour expliquer cette anomalie, le vieillissement de la population. Alors, c'est exact, mais les économistes nous disent que la démographie n'explique que la moitié au mieux de cette diminution spectaculaire du taux d'emploi.
Alors d'où viennent les autres explications, Vincent ?
Alors il y a un ou des problèmes dans une partie de la population, les 25-54 ans, ce qui en principe est le cœur actif du marché du travail. Et là, on observe deux phénomènes très inquiétants. Un, les femmes ont une tendance à se retirer du marché du travail, alors que l'émancipation féminine par le travail était l'un des grands acquis du siècle précédent. La faute sans doute aux politiques familiales, mais moins généreuses, mais pas seulement. On le voit avec la deuxième observation. Elle concerne cette fois l'état d'une partie de la jeunesse américaine, c'est-à-dire la plus fragile. 70% des 17-24 ans qui sont exclus du marché du travail ne peuvent même pas postuler dans l'armée, soit parce que leur santé est problématique, avec notamment des problèmes d'obésité et de diabète, soit parce qu'ils ne maîtrisent même pas les savoirs élémentaires de base, comme la lecture et le calcul. Le chef d'une grande entreprise vient de tirer la sonnette d'alarme. L'école est en train de laisser tomber nos enfants, dit-il. Il s'agit le plus souvent de ceux des minorités et des ménages les plus modestes. Nous sommes en train de créer, dénonce encore ce chef d'entreprise, des générations de citoyens qui n'auront aucune chance de réussir dans ce pays de rêve et d'opportunités.
Santé, éducation, qui sont en principe pourtant les missions de l'État-providence. Hein.
Eh bien oui, sauf que l'État-providence américain, justement, Nicolas, ne remplit de moins en moins ses missions fondamentales. Il est de moins en moins efficace, malgré l'Obamacare, malgré des politiques publiques dans l'éducation conduites par l'ancien président. C'est un problème majeur qui mine la grande promesse américaine. Le nouveau président Donald Trump a promis, lui, de créer 25 millions d'emplois en 10 ans. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas gagné. Plutôt que de tenter de faire revenir sur le sol américain d'hypothétiques emplois industriels, Trump ferait beaucoup mieux de décréter un effort colossal dans les domaines de l'éducation, de la formation et des politiques familiales. Et quand on voit les premières orientations budgétaires qui viennent d'être dévoilées et qui prévoient notamment des coupes sévères dans les budgets sociaux fédéraux, on se dit que Donald Trump n'en prend vraiment pas le chemin.
Vincent Giray du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, le téléphone se sonne ce soir sur l'enseignement supérieur et la recherche. Encore un débat et un rendez-vous manqué de cette présidentielle. Si les candidats ont évidemment des propositions en la matière, ce secteur crucial, ne serait-ce que pour l'économie française, n'a suscité aucun échange, aucun dialogue de fond entre les 11 prétendants. Nouveau volet donc de notre série de téléphone sonne sur la campagne invisible. Alors chercheurs, étudiants, enseignants, professeurs, intervenez vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson. Deux rendez-vous supplémentaires sur l'antenne de France Inter. Demain à 8h20, Patrick Cohen recevra Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Et dans un autre genre, à 9h10, Boomerang, Augustin Trapenard reçoit lui le romancier, l'écrivain Guillaume Musso. Le journal dans une minute.